أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، حياكم الله لطاعته. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va procéder pour ce question-réponse par ordre, Inch'Allah ta'ala, dans l'ordre dans lequel on a reçu les questions, dans la mesure du possible. Donc, la première question concernant le fait de pratiquer les adorations en secret, comme cela était la voie des pieux prédécesseurs et la voie des grands imams de la sunna. Concernant le fait de pratiquer les adorations en secret, cela est très important pour combattre l'ostentation. Ceci est la voie des salafs. Ton action, adoration, doit être entre toi et Allah. Cependant, le croyant doit être capable de pratiquer ses adorations en public et en privé. Lorsque le cheikh, je ne sais pas si vous avez tous écouté l'audio, on n'a pas eu le temps de le mettre sur YouTube. L'audio, la réponse du cheikh sur les calamités en Algérie, puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime un peuple, il l'éprouve. Jusqu'à ce qu'il revienne à la vérité. Wallahu a'lam. Et ce n'est pas comme certains le prétendent ou veulent le laisser croire que l'Algérie n'est pas un pays musulman ou que l'Algérie ceci ou cela. Naam. Donc le récit que nous rapporte le cheikh à propos d'un adorateur insignifiant aux yeux des autres, insignifiant, puisqu'il est également un esclave. Et cet adorateur, lorsque le pays était éprouvé et que tous les gens sont sortis pour Salat Istisqa, lui, il a attendu que tous les gens de la ville terminent Salat Istisqa, la salat de la demande de la pluie, car ils avaient besoin de pluie. Il est donc parti seul à la mosquée, plein de poussière, une personne auprès des gens insignifiantes. Il alla tout seul donc à la mosquée, à l'abri des regards, et il commença à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pensant qu'il était seul. Mais il y avait le savant qui raconte ce récit, qui est mentionné dans Sir A'lam al-Nubala. Ce savant qui l'a vu et qui a témoigné de l'exceptionnelle situation dans laquelle cet adorateur invoquait Allah, c'est-à-dire des invocations qui font trembler le cœur ou les cœurs. Puis, à la suite des invocations de cette personne qui n'était pas insignifiante auprès d'Allah, mais qui était insignifiante auprès de tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre la pluie par la cause de l'invocation d'une seule personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, certitude et en secret, à l'abri des autres. Allah subhanahu wa ta'ala a fait favoriser, a mis ses grâces sur tout un peuple par la cause d'une seule personne. Et la caractéristique de ce personnage, c'est que il s'est caché pour faire son adoration. Il s'est caché. Ce qui signifie qu'une adoration avec toute la ville, tout le monde réuni, n'a pas fonctionné. Et l'adoration d'un seul adorateur en secret, avec sincérité, a fonctionné. Ça, c'est la première faïda concernant les invocations, les adorations. Comme quoi, c'est mieux que ça reste entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala, à la base, al-asl. Deuxième faïda qui vient nous confirmer, encore plus marquante, c'est que ce savant, en vous passant les détails, il a cherché, il a suivi ce personnage après ses invocations à la mosquée. Il a cherché à savoir qui c'était, il a réussi à savoir qui c'était. C'était un esclave, il l'a acheté puisque il achetait des esclaves à l'époque, le savant là, des serviteurs. Il l'a acheté, puis quand il l'a acheté, il lui a dit c'était toi qui priais à la mosquée. Le serviteur de lui dire, vous m'avez vu? Ou tu m'as vu? Il répondit oui. Il invoqua directement Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le faire mourir. Il mourut. De peur, il invoqua Allah ta'ala de le faire mourir, de peur que, comme on l'a vu, d'être maftoun. Maftoun, tenté par se montrer, avoir un rang, ceci, cela. Donc regardez, les vrais adorateurs, les gens vertueux, savent très bien qu'une action qui passe le mieux, c'est l'action qui reste entre toi et ton Seigneur. Il y a des savants qui disent que même l'homme doit avoir une action. Écoutez bien, les ulama disent que même l'homme, il doit avoir une adoration ou une action que même sa femme, elle n'est pas au courant, que lui, il fait tout seul. Naam. Donc, pour vous dire maintenant, comme on l'a dit, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Ziyad. Hayakallah, Cheikh Ziyad. Donc, comme on l'a dit précédemment, les adorations, ça ne signifie pas qu'on fait tout en secret. On doit être capable de faire les adorations quand il n'y a pas le choix, c'est en communauté, devant les gens, mais ça ne doit pas influer sur notre adoration. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, elle ne doit pas bouger notre adoration. Non. La deuxième question, on nous avait posé la question sur le cas de Eric Younous. Le cas de Eric Younous. Il apparaît donc de ce frère qu'il suit la voie des frères musulmans. Par conséquent, il ne fait pas partie des gens de la Sunna. Les savants disent, les prétentions ne sont ni un argument ni une référence. Alors, comme vous le savez, nous, on n'aime pas parler des gens. On n'aime pas prononcer des noms, on n'aime pas parler des gens. Maintenant, quand il y a des gens de l'innovation, c'est un devoir, voire une obligation. On le fait, mais nous, on n'essaye pas de faire monter notre darwa. C'est juste à titre indicatif. On n'essaye pas de faire monter notre darwa ou faire connaître notre darwa avec des mises en garde. Nous, quand on fait une mise en garde, c'est vraiment parce qu'on estime qu'il faut la faire. Il faut la faire. Par rapport à beaucoup de paramètres. Et même le moment où on choisit de la faire, il y a beaucoup de paramètres qui échappent aux ignorants et aux gens de la masse, et aux jaloux et aux détracteurs. Mais nous, le moment où on choisit de la faire, même ça, c'est ilmi. Comme vous le savez, on a déjà expliqué dans les cours, vous devez vous fixer que nous, tout ce qu'on fait, c'est ilmi. C'est ilmi, c'est pas. Il n'y a rien de personnel, tout c'est ilmi. Non. Donc, là, on nous a posé la question, c'est une obligation de répondre. On n'a rien de personnel contre le personnage, mais il apparaît de ce frère qu'il suit la voie des frères musulmans, par conséquent, il ne fait pas partie des gens de la Sunna, les savants disent, les prétentions ne sont ni argument ni référence. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit, il n'y a pas de... dit, ce n'est pas toute personne qui se prétend salafi qui est salafi. Tamam? Les sectes, les groupes qui sont considérés comme groupes déviants, etc., frères musulmans, tablir, chiites, ash'ari'ra, khawarij, etc., ne font pas partie des gens de la sunna. Il faut le savoir. Ne font pas partie des gens de la sunna. On avait une autre question concernant la niya, l'intention. Alors, concernant la niya, l'intention, en fait, qu'est-ce que l'intention? L'intention, c'est le but que l'on recherche à travers sa volonté intérieure. Les savants disent, par exemple, si tu veux aller faire la salat, tu n'as pas besoin de le prononcer ni dans ton for intérieur, ni avec ta langue. Ce qui est considéré comme innovation. Mais le fait qu'au moment que tu choisis pour faire cette adoration, tu as la volonté d'aller la faire, tu t'es fixé le but. Et la volonté, ça s'appelle la niya. C'est ça l'intention. Ça, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Les savants ont dit, Famen qasada fi'l shay faqad nawa. Celui qui a pour but de faire une chose, alors il en aura eu l'intention. Tayyib. Également, concernant l'intention, il y a une mas'ala très importante, c'est le fait de prendre garde au shaitan. Prendre garde au shaitan. Car le shaitan, comme il connaît l'importance de l'intention, selon le hadith rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, les actes ne valent que par les intentions. Alors, comme le shaitan, il sait cela, il joue, il fait des wes-wes, il distrait, etc. Donc attention de bien être concentré dans les adorations, toujours essayer de mettre sa niya pour Allah subhanahu wa ta'ala avant chaque adoration. Toujours revoir, remettre en cause, réviser son intention. Ensuite, on avait eu une question sur un endroit où se trouvent dans un même temps les toilettes et la salle de bain? Comment on fait pour faire les ablutions? Concernant les toilettes, salle de bain pour les ablutions et prononcer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les savants, dont Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, disent qu'il n'y a pas de mal à prononcer le nom d'Allah, mais dans son cœur. Il ne faut pas le prononcer avec sa langue. Il ne faut pas le prononcer avec sa langue. On avait reçu également une autre question concernant l'or. Concernant l'or. Est-ce que l'or pour la femme, l'or qui n'est pas considéré comme pour faire du tijara, du commerce ou autre, c'est-à-dire l'or à usage personnel pour s'embellir. Est-ce qu'on doit donner la zakat sur cet or? Donc, sur cette question, les savants ont divergé. Sur cette question, les savants ont divergé. La majorité des savants, Jumhur, la majorité des savants disent que la zakat, l'aumône légale, n'est pas obligatoire sur l'or qui est à usage personnel. Et cela selon la majorité des savants. Et il y a même cinq parmi les compagnons, Ibn Omar, wa Jabir, wa Anas, wa Aïcha, wa Asma, radiallahu anhum, l'imam Malik, Ibn Anas, wa Ahmed, Ibn Hanbal, wa Shafi'i. Ishaq, Rahwih, wa Abu Ubaid, wa Abu Thawr, ou Thawr, wa Sha'bi, qui sont d'avis, la majorité, hein, que l'or pour la femme n'est pas imposable. Naham. L'or qu'on a comme bijou personnel. Ensuite, il y avait une deuxième question, mais Allahu a'lam, je n'ai pas la réponse. Concernant la zakat sur l'or, Wallahu a'lam, je n'ai pas la réponse. Fayajib al-Muslim an yatadawi bi kulli shay illa ma khassahu dalil bil man'. Ensuite, on nous a posé la question, il y avait une autre question sur l'acupuncture. On nous avait posé la question sur l'acupuncture. Donc, ce qu'on a trouvé, nous, il est permis aux musulmans de se soigner par toute chose. La base, comme vous le savez, c'est la permission, jusqu'à ce qu'une preuve vienne l'interdire, comme par exemple l'alcool. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Allah subhanahu wa ta'ala a pour toute maladie descendu son remède et ne vous soignez pas avec le haram, rapporté par Abu Daoud. À ce propos, il n'y a pas de mal, donc on nous dit d'utiliser. Ils appellent ça en arabe les aiguilles chinoises. Ibr Sainiya. Ce sont les aiguilles chinoises, c'est-à-dire l'acupuncture. Tant que cela est utilisé pour comme remède et que cela ne cause pas de danger et de nuisance. Alors on avait autre chose sur ça. اليوم يوجد هذا العلاج في كل الدول العربية تقريبا، حيث دخلها قبل 10 سنين، ويعول عليه كثير من المرضى من مختلف الأعمار من الجنسين، وذلك بعد تأكد فوائد. وتلقى العلاج آنيا الذي غالبا غصا استخدام ففيه نقل فتوى بالجواز عن الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، دونك ان نو غران سافون دو لا سنة دارابي également dans ses fatwas. La question lui a été posée et il avait rendu cela permis, l'acupuncture. Wallahu a'lam. Pour l'apprentissage des noms d'Allah, il est permis d'apprendre le nom d'Allah et le sens pour pouvoir invoquer Allah par ses plus beaux noms. On nous avait également posé la question concernant les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment pourrait-on invoquer Allah au Ta'ala par ses plus beaux noms si on ne peut pas, dans un premier temps en tant que débutant, étudier l'asma et wa sifat, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la réponse c'est que pour l'apprentissage des noms d'Allah, il est permis d'apprendre le nom et le sens pour pouvoir invoquer Allah par ses plus beaux noms. Mais attention, on ne va pas rentrer dans les détails, dans des livres avec des détails, etc. Ça, il faut un enseignant pour, mais il n'y a pas de mal de trouver ouvrage ou autre où le nom attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. Attention, ouvrage ou autre de confiance, de référence, avec des traducteurs, des gens de la sunna qui traduisent les grands savants. Et là, inshallah ta'ala, il n'y a pas de mal à cela. On a également reçu une question, on a également reçu une demande concernant la cigarette. Concernant la cigarette. Inshallah ta'ala, on va le mettre une fois qu'on aura terminé les questions, on fera un petit rappel sur cela, sur la cigarette, inshallah ta'ala, un petit éclaircissement sur le jugement de la cigarette, etc. Car beaucoup de musulmans sont éprouvés par cette chose, naam, par la cigarette ou autre, hein. Mais ici plus particulièrement dans notre contexte à nous, la cigarette. Question numéro 8. Question numéro 8. Donc c'était ça, la cigarette. Ah. Ensuite, on avait une question sur le fait, lorsqu'on suit, on écoute des cours ou autres, et que le fait d'être assis ou d'être sur le dos devient gênant, peut-on se mettre en position sur le ventre? Wallahu a'lam. S'il n'y a pas de dalil qui interdit cela, Wallahu a'lam, la base, c'est que c'est permis. C'est permis à partir du moment où la personne, il est prouvé, il est affirmé que elle ressent vraiment une grande gêne, que la personne, elle ne peut pas s'asseoir, elle a du mal,
elle ne peut pas se mettre sur le dos, elle a du mal, alors elle se met sur le ventre. Concernant l'interdiction de dormir sur le ventre, ce sont deux choses différentes. Wallahu a'lam, lorsqu'on a mal au dos ou qu'on n'a plus la capacité de s'asseoir, alors si on se met sur le ventre et qu'on n'a pas d'autre solution, comme le dit le messager d'Allah, alayhi salam, priez debout si vous ne pouvez pas prier assis, si vous ne pouvez pas prier allongé. La divergence qui a lieu, c'est pour dormir sur le ventre. Il y a divergence, est-ce que c'est détestable ou est-ce que c'est haram? Ala kulli hal, les savants disent que de dormir sur le ventre, il ne faut surtout pas, parce que ça a des conséquences sur le corps. C'est dangereux pour le corps de dormir sur le ventre. Mais là, on ne parle pas, si j'ai bien compris la question, là, il s'agit d'écouter des cours et on a mal au dos ou on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se mettre sur le dos. Donc on se met sur le ventre. S'il n'y a que cette position qui facilite, Alhamdulillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et Allah ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Wattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah comme vous le pouvez. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, tant Amin, Amin. Ala kulli hal, s'il n'y a pas un dalil qui vient l'interdire, on ne peut pas dire faut pas le faire, c'est haram. Naam. Maintenant, à la base, ce serait mieux d'éviter, comme vous le savez, parce que dormir ou s'allonger sur le ventre le soir, c'est ou bien détestable selon la. Un dalil pour. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Un dalil pourquoi? Son père a dit, j'étais étendu sur mon ventre dans la mosquée. J'étais étendu sur mon ventre dans la mosquée quand quelqu'un me vit bouger avec son pied, me fit bouger avec son pied. C'est là une façon de se coucher qu'Allah n'aime pas. Je regardais alors et vis que c'était le messager d'Allah, Ta'ala. Donc ça, c'est un dalil pourquoi? Déjà pour la mosquée, et la réponse d'un étudiant, on va d'abord commencer par ceux qui ont le plus haut degré, la réponse d'un savant ou la réponse d'un étudiant se fait en fonction de la question. Se fait en fonction de la question. Nous allons donc reprendre la question, puis répondre une deuxième fois. Faut que je la retrouve. Taïb. J'ai une question, est-ce détestable ou haram de se mettre sur le ventre? Car par rapport à notre situation, on ne peut pas rester longtemps assis, ça fait parfois mal au dos. Du coup, à certains moments, on se met sur le ventre. J'aimerais savoir si c'est interdit ou détestable. On va redonner la réponse et ensuite, on va établir le non-rapport avec le hadith si mentionné. On va établir le rapport, le non-rapport, comme quoi ça n'a rien à voir, avec le hadith si mentionné à la mosquée. La réponse, dans un cas où la personne a mal, a une gêne, n'a pas la possibilité, s'est resté trop longtemps assis ou autre, la seule position qui la soulage, c'est de se mettre sur le ventre, alors, Wallahu a'lam, cela est permis, cela est considéré. C'est comme si c'était une darora, et comme vous le savez, même si cela est considéré comme détestable ou haram, dans un cas où la personne n'a pas d'autre choix, elle pourra, inshallah ta'ala, se soulager de cette manière. Si une personne est blessée au dos ou au bas du dos ou au postérieur, n'importe, elle a reçu une balle, un coup de couteau, elle est tombée sur le dos, sur le postérieur, et que les médecins lui disent que tu dois rester sur le ventre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, c'est détestable. Ou non, c'est interdit. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui pratiquent la hijama, il y a certains professionnels qui ne font pas le hijama assis. Quand vous allez à leur cabinet, c'est allongé sur le ventre. Est-ce que là, on dit c'est détestable? Il y a des cas où nous prenons la question comme elle a été posée. Il y a une gêne, un mal, etc. Donc, ce n'est pas comme celui qui va à la mosquée ou qui assiste à un cours et qui peut s'asseoir dans toutes les positions connues au monde et qui va se mettre sur le ventre. Lui, c'est sûr qu'il devra recevoir des coups de bâton. Naham. Wallahu a'lam. Également, on avait reçu une autre question sur l'éducation des enfants selon la voie des salafs. Wa iyyakum. On avait reçu cette question, Naham, sur l'éducation des enfants. Inch'Allah ta'ala, c'est un sujet qui demande du temps à traiter. Qui demande du temps à traiter. Donc, on le traitera, Inch'Allah ta'ala. On traitera ce sujet, Inch'Allah ta'ala, dans un autre moment, Inch'Allah ta'ala. La seule chose qu'on peut dire, si on peut le dire en une phrase, ce qui regroupera tout ce qu'on pourrait dire dans un cours, on va essayer de le dire en une phrase. Tout ce que vous voulez pour vous, religieusement, tout ce que vous voulez pour vous, religieusement, et même plus, Vous devez le transmettre à vos enfants. Tout ce que vous souhaitez pour vous-même dans la religion, aller au paradis, réussir, être parmi les prieurs, être parmi les croyants, être étudiant, tout ce que vous voulez, être parmi les mouahidines, les gens du tawhid, tout ce que vous souhaitez pour vous-même et mieux encore, faites les causes pour vos enfants. Et parmi les meilleures causes, il y a les invocations, n'oubliez pas. Il y a les invocations. Allahumma ja'alni min muqim as-salat wa min dhurriyyati rabbana taqabbal minni wa li walidayya wa li al-mu'minin yawma yaqumu al-hisab. Cette invocation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On souhaite ce qu'on voudrait pour nous-mêmes, religieusement, et encore plus, on souhaite le top, le summum, le plus haut degré pour les enfants. Et ça passe par les invocations. Ça passe par le bon comportement, déjà soi-même, être un bon exemple. Parce que les enfants, si ils voient qu'il n'y a que de la théorie, du blabla, et qu'il n'y a pas de pratique, les parents ont un mauvais comportement, ils sont des menteurs, etc. Menteurs, arnaqueurs, tout ce que vous voulez, ça sera une contre-darwa. Cela sera une contre-dawa. Donc, le premier exemple que les enfants ont depuis la naissance, c'est les parents. Ce sont les parents. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Kumlukum ra'i. Wa kullu ra'i mas'ul an ra'iyatihi. Vous êtes tous bergers et chaque berger est maître de son troupeau, responsable de son troupeau. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille et moi. Je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Cela signifie qu'on doit placer tous nos efforts pour être les meilleurs exemples. Wallahi, si vous avez des bonnes mœurs, donc les mœurs de l'islam, des bonnes moralités, donc la moralité de l'islam, un bon comportement, donc le comportement de l'islam, des années, des années après, même quand on sera disparu, même quand vous serez disparu, vos enfants, s'il y a la baraka en vous, hein, vos enfants se rappelleront et ils diront, mon père, ma mère, ceci, mon père disait ceci, ma mère disait cela, mon père m'a appris ceci, ma mère m'a appris cela, il y aura la baraka dans votre éducation. On revient à la niyya, mettez l'intention sincère, parce qu'il y a tout à gagner. Si vous formez des enfants pieux, lorsque vous serez mort et lorsqu'on sera mort, on sera récompensé et élevé en degré pour les invocations qu'ils feront pour nous. Maintenant, on en a déjà parlé une fois, je le redis une deuxième fois. Mettez le paquet, mais pas à votre propre détriment. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, fi kitabil karim dans le Coran, il a dit, Qu anfusakum, sauve d'abord ta peau à toi du feu. Et sauve aussi ta famille. Mais d'abord, tu dois sauver ta peau. Et bien entendu, tu es responsable de ta famille. Mais tu ne vas pas te priver toi-même ou être laxiste sur toi-même, alors que rien ne t'est garanti, et on ne souhaite pas à qui que ce soit, mais rien ne te garantit que plus tard ils seront guidés et ils suivront la vérité. Donc si tu t'es lésé dans l'apprentissage de la religion, dans tes adorations, dans ton rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que plus tard, et que tu as mis le paquet sur les enfants, et que plus tard, ils ne sont pas reconnaissants, ou bien ils ne sont tout simplement pas musulmans et on le souhaite à personne, mais c'est très courant, c'est très courant. Alors, tu te seras sacrifié pour rien du tout. Wallahu a'lam. Donc, on avait dit qu'il y avait la dernière question qu'on a laissée pour la fin concernant la cigarette. Voilà. Et sache que si tu as fait ton devoir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, alhamdulillah, bi'ithnillahu ta'ala, inshallah, Allah accepte. Tu seras récompensé. Mais ce n'est pas lorsque l'enfant arrive à 17, 18, 20 ans qu'on lui dit le hijab, il est obligatoire, qu'on dit que, et que l'enfant ne veut pas le porter, qu'on soit étonné ou qu'on porte des jugements ou quoi que ce soit. Non, là, le jugement revient sur les parents. Car tout ça commence au plus petit âge. Concernant le fait de frapper les enfants, également, la question a été posée. Les ulama ont répondu à cette question en disant que il y a frapper et frapper. La notion de frapper dans l'islam, ce n'est pas la notion de frapper dans les pays occidentaux. Hein. C'est juste pour marquer le coup. Des fois, on fait juste un geste ou un petit coup de siwak ou une petite tape sur l'épaule, par exemple, ou sur la main. En marquant le coup, et ça peut toucher un cœur plus que si on avait traumatisé, massacré, enfermé dans un placard, frappé à coups de bâton. Non. Non. Toute frappe qui cause des blessures corporelles est interdite dans l'islam. Wallahu a'lam. Donc j'ai ici une khutbah. Une khotba sur concernant la cigarette. J'ai une khotba. Et je vais essayer, inshallah ta'ala, de vous la traduire. Ô vous, les croyants, je vous enjoins, ainsi que moi-même, à l'exhortation d'Allah au premier parmi les premiers. Au premier et au dernier. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa laqad wassayna alladhina. Traduction rapprochée du sens et court, c'est qu'Allah ta'ala a enjoint, exhorté ceux qui ont reçu le livre avant nous, avant vous et vous-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous retournerez à Allah. Et chaque âme, thumma tuwaffa kullu nafsin, et chaque âme mourra et elle sera rétribuée, naham, jugée, et elle ne, traduction rapprochée, hein, sans injustice. Personne ne sera lésé dans le jugement. Ayyuha al-muslimun, laqad an'ama Allahu ala 'ibadihi bi ni'amin kathiratin la tu'addu wa la tuhsa. Puis on nous dit, ô vous les musulmans, Allahu Ta'ala vous a donné une grâce, des grâces, a donné à ses serviteurs d'immenses et de nombreuses grâces que l'on ne peut dénombrer. Que l'on ne peut dénombrer. Wa min abrazi tilka an-ni'ami bi ni'mati al-mali was-sihha. Et parmi ses plus connus, parmi les grâces, les biens matériaux, hein, l'argent, etc., et la santé, et la santé. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, concernant la santé, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Abbas, d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il y a deux grâces dans lesquelles les gens. Il y a deux grâces qui sont les plus importantes. Ces deux grâces, parmi ces deux grâces, il y a la santé. Il y a la santé. Alors je cherche 2 petites secondes sur le hadith quelque chose. Une vérification par rapport au hadith. Donc, la santé également, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, il a parlé des biens matériaux comme ni'ma, comme grâce, hadith rapporté par l'imam Ahmed. Donc le premier hadith, je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux grâces sur lesquelles la plupart des gens sont dupés, lésés. Ils sont dupés, ils sont lésés. Hein? Parmi ces deux grâces, il y a la santé. Concernant l'argent, le prophète a dit dans un hadith, dans le sens où la personne, Yaumul Qiyama, le jour de la résurrection, sera questionnée sur ces grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données comme la santé et les biens. Il sera également, la personne, le jour de la résurrection, elle sera également questionnée sur qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait de sa science, qu'est-ce qu'elle a fait de ses biens, comment as-tu dépensé de tes biens, de ton corps? Car, comme on le sait, le corps est une amana. C'est un dépôt, une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains. Et lorsqu'on consomme la cigarette, et lorsqu'on consomme la cigarette volontairement, on
C'est comme si cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, on n'en tenait pas compte et on l'a bafouée. On l'a bafouée. Et on sera questionné sur cela, dans le sens où il faut apporter les preuves. Les savants disent que les médecins sont unanimes que la cigarette est dangereuse pour la santé. Il n'est donc pas permis dans l'islam. Il est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala de consommer des produits qui mettent en danger la grâce, la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée ou nous a donnée, la santé. ومن أجل الحفاظ على هذه النعم فإن الله جل وعلا لم يجعلها ملكا لصاحبها. Et pour préserver ces grâces venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la santé, les biens, Allah ta'ala a fait en sorte qu'elle ne soit pas l'unique et ultime et absolue possession de la personne. Car il faut savoir que ton argent, tes biens appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. La personne est chargée, la personne est chargée de s'en occuper. Mais tout appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un dépôt. La santé est un dépôt. La bonne santé et la préservation vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est donc interdit, il n'est pas permis à la personne de mettre en péril ou en danger cette santé ou ses biens matériaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre ses mains par l'intermédiaire du muharram, c'est-à-dire ce qui est interdit, ou la désobéissance et les péchés, plus particulièrement dans notre contexte ici, la cigarette. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans l'islam le gâchis, l'excès, l'israf. Tout ça pour préserver les biens d'autrui. Allah subhanahu wa ta'ala a également interdit à la personne de se suicider ou de se mettre en danger. C'est-à-dire tout ce qui est danger pour la personne. Wa innana asbahna fi zaman la tanqadi ajaibuhu. Nous sommes dans une époque très étonnante lorsque nous voyons des personnes qui dépensent pour des choses qui vont être nuisibles pour leur personne. Tu le vois, il se met en péril, il met en péril les membres de son corps. Chaque jour, il les met en péril par la consommation de divers produits comme la cigarette. Il dépense de son argent dans ce sentier et il met en danger, en péril, sa santé et ses biens. Car il est prêt à dépenser un prix déraisonnable, quel qu'il soit. Il est prêt à dépenser un prix élevé, quel qu'il soit. Le cheikh nous dit, et si il aurait dépensé cet argent dans le sentier d'Allah ou dans le bien, il aurait trouvé une lumière auprès d'Allah en échange à cela. Il aurait trouvé cela comme un bien le jour de la résurrection. Écoutez, ô serviteurs d'Allah, Écoutez, ô serviteur d'Allah, un hadith immense. Un hadith immense. Écoutez-le et faites de ce hadith une parole qui reste devant vos yeux continuellement. Continuellement. Wasma'u ya ibadallah. Ila hadithin azim. Isma'uhu. وجعلوه أمام أعينكم دائما. روى الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit: La vie mondaine est de quatre se divise en quatre groupes. Un serviteur qui a reçu la subsistance d'Allah, les biens, la science, il est pieux, il craint Allah et il dépense tout cela pour son Seigneur. Il se tient sur les lien de parenté. Et il sait que c'est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il a le meilleur degré. Le deuxième, un serviteur à qui Allah a donné la science comme subsistance, mais il ne lui a pas donné comme subsistance l'argent, les biens. Il est véridique dans son intention, il dit: Si Allah Ta'ala m'aurait donné les biens, j'aurais œuvré comme l'a fait un tel, c'est-à-dire j'aurais dépensé
Attention, attention, attention.
dans le sentier d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dans cette deuxième catégorie, la personne sera récompensée comme la première, en fonction de son intention. La personne dans la deuxième catégorie, par rapport à sa bonne niyya, il sera récompensé comme dans la deuxième catégorie. Naham. Taïb. Donc, ces deux premières catégories, la récompense est identique. La troisième catégorie, un serviteur à qui Allah Ta'ala a donné la subsistance en biens mondains, mais il ne lui a pas donné la subsistance de la science. La science, l'ilm ou nafi'a. Il dépense donc de son argent sans science. Il ne craint pas Allah. Il ne se tient pas sur les liens de parenté. Et il ne sait pas que cela, tout ça, c'est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui, c'est la plus immonde, c'est le plus immonde degré. La dernière et quatrième catégorie, c'est un serviteur à qui Allah Ta'ala n'a pas donné la subsistance mondaine, beaucoup l'argent et tout. Il ne lui a pas donné non plus la science. Et il dit, si Allah Ta'ala m'aurait donné les biens mondains, j'aurais fait dépenser comme un tel. Naham. Celui-là également, il est récompensé en fonction de sa bonne intention. Ô toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la subsistance, les biens mondains et la santé, et tu t'empresses
à dépenser cela dans la cigarette? Est-ce que cela est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, sur ton argent, tes biens et ta santé? Est-ce que ceci est un remerciement envers Allah ta'ala pour ces bienfaits qu'il t'a accordés? Qu'aurait été-il si tu aurais été pauvre, que tu aurais été malade d'une maladie incurable? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tu sois en bonne santé, que tu sois dans le bien, et tu ne le remercies pas. Est-ce que tu renies les biens d'Allah, les bienfaits d'Allah, ou les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a donné la capacité également parmi les preuves rapportées, les récits, ou plutôt les hadiths rapportés concernant les enfants d'Israël, un récit très immense, qu'il est important de connaître et retenir, qui est une leçon de vie. ألا وأن من أخبار بني إسرائيل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Également parmi les khabar, les hadiths rapportés sur les enfants d'Israël, ce qui a été rapporté par Bukhari et Muslim dans un hadith de Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dire: il y avait trois personnes parmi les enfants d'Israël. Il y avait trois personnes parmi les enfants d'Israël. Il y en avait un qui était lépreux, un qui était pauvre et un qui était aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala les éprouva. Allah subhanahu wa ta'ala les éprouva en leur envoyant un ange. Donc il envoya le premier ange à celui qui avait une maladie. Wallahu a'lam, comme cité ici, il me semble que c'était une maladie de la peau, du visage. L'ange lui dit: qu'est-ce qui est le plus aimé auprès de toi? Qu'est-ce que tu aimerais le plus? Il répondit: une bonne couleur et une belle peau. Il le toucha, puis il partit. À la suite de ça, le premier homme, il eut une belle peau, une belle couleur, et il dit: quels sont les biens qui seraient les mieux auprès de toi? Il dit au second: des chameaux. Il lui en donna une dizaine. Ou des dizaines, un grand nombre, Mohim. Et qu'Allah te donne les bénédictions. Puis il arriva au Al-A'ma, l'aveugle. Il lui dit les mêmes choses qu'au premier et au deuxième. Et il lui donna des biens, etc., des bestiaux, des troupeaux, etc. Puis l'ange décida, après un temps passé, de revenir voir ces trois personnes, le premier, le deuxième, le troisième. Il dit au premier, en se présentant comme
Quelqu'un qui est dans le besoin. Sachant que l'aveugle lui a redonné la vue également. Il lui avait redonné la vue par la permission d'Allah. Donc, l'ange déguisé, toujours en pauvre, en miskin, il vient et lui demande son assistance. Le premier lui dit non, non, non. L'ange lui fait le rappel que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné alors qu'il n'avait rien. Mais rien à faire. Ce fut la même chose pour le deuxième. Tandis que le troisième qui était aveugle, il lui dit, c'est Allah Ta'ala qui m'a tout donné, la vue, la richesse, qui m'a rendu riche. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Et l'ange lui répondit, garde ce que tu as, c'était juste une épreuve. Allah Ta'ala t'agrée. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala se mit en colère contre les deux autres. Donc ça, c'était un tout petit résumé du hadith, hein, rapidement. Ô serviteur d'Allah, ô serviteur d'Allah, ne tiens-tu pas compte de cette immense exhortation de ceux qui désobéissent et qui s'éloignent parmi ceux qui nous ont précédés? Par Allah, ils font partie de ceux qui sont les perdants. Ils font partie de ceux qui sont les perdants. Ils ont perdu la guidée. Et sera heureux celui qui a compris cette exhortation. Car cela fait partie de la tradition d'Allah Ta'ala, qu'il ne change pas. La tradition d'Allah Ta'ala, elle ne change pas. L'exhortation envers l'humanité. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans un verset du Coran, يقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Alors, je cherche la traduction. Je ne trouve pas la traduction, donc ce sera traduction rapprochée du sens du verset. Comme il ne vous appartient pas, ce n'est pas dans vos prérogatives, traduction rapprochée du sens, hein, ni celle des gens du livre. Naham, men ya'mel sou yujza bihi. Celui qui fait une mauvaise œuvre, il sera rétribué en fonction de cette mauvaise œuvre. Il ne trouvera pas en dehors d'Allah d'alliés ni de secoureurs. Troisième. À toi, ô croyant qui entendra, à toi, croyant raisonnable, qui entendra ces paroles, qu'elles soient considérées auprès de toi, et tu prendras connaissance de la vérité. Et attention à ne pas être laxiste. Et tout musulman et musulmane doit être mis en garde contre ce genre de choses, comme la cigarette. Naham. Wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin nasi ala dhulmihim. Et Allah Ta'ala a la miséricorde, la clémence sur les gens par rapport à l'injustice qu'ils se font à eux-mêmes. Mais Allah Ta'ala est très dur en châtiment. Nous demandons donc à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous raffermisse sur son obéissance et qu'il nous éloigne des interdits. Amin. Wa qala Shaykh Ibn Baz rahimahullah qad dallat al-adillatu shar'iyyatu ala anna sharba ad-dukhani min al-umur al-muharrama. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a donc argumenté par des preuves légiférées que le fait de consommer la cigarette fait partie des choses les plus illicites, des choses illicites dans la législation, par rapport à ce que cela comporte de méfaits immenses et nombreux. Allah Ta'ala n'a pas permis pour ses adorateurs de choses consommables sans qu'elles soient bonnes, purifiées, purifiantes et utiles. Mais tout ce qui est nuisible pour la religion, pour la vie mondaine, ou qui change, qui vient affecter la raison, Allah subhanahu wa ta'ala a formellement interdit cela. Allah Ta'ala est le plus miséricordieux pour vous-même. Il est le juge, le savant, le connaisseur dans ses paroles et dans ses actes, dans sa législation. Allah Ta'ala n'interdit pas quelque chose pour rien, en vain. Il ne crée pas quelque chose en vain. Il n'ordonne pas quelque chose en vain. Ce n'est pas au serviteur pour les serviteurs sans que cela ait une utilité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le juge des juges. Allah ta'ala est le miséricordieux des miséricordieux, le plus. Wa huwa alimu bima yuslihu al-ibad. Allah ta'ala est plus connaisseur pour ce qui est des intérêts des serviteurs et ce qui est le plus utile pour eux maintenant ou après. Naham. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, si certains ont des questions auxquelles on pourrait répondre, Inch'Allah Ta'ala, sinon on les remettra à la prochaine session. S'il y en a parmi vous qui ont des questions, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. On a enregistré cette session et Inch'Allah Ta'ala, ceux qui n'ont pas pu y assister, par la grâce d'Allah, pourront la réécouter et profiter, bi'idhnillahu Ta'ala. Tandis que si il n'y a pas de questions, nous nous contenterons. Wafikum barakallah, avec plaisir. Avec plaisir, on a beaucoup de projets pour l'Institut et on prendra tout le temps qu'il faut. On a beaucoup de projets, on a même des surprises. Donc, on a demandé à un grand étudiant de Cheikh Mokbel de nous faire une petite amine. de nous faire une petite intervention pour wa alaykoum assalam wa fikoum barakallah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa fikoum barakallah. On lui a demandé de nous faire une petite allocution sur la motivation dans la recherche de la science. Et j'attends sa réponse, inshallah ta'ala. Naam. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.